cher public, chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour votre émission favorite, La Voix. Cher public, je vais vous enjamber. Hop. Je vous en rappelle le principe. D'un côté, un chanteur viendra interpréter la chanson de son choix. De l'autre, des coachs. Dos au public, qui n'auront que la voix pour être touchés. Ils pourront alors se retourner et buzzer pour attirer le candidat dans leur équipe. Cette année, nous allons innover et nous proposons à chacune de nos émissions un thème, l'écologie. Alors nous allons débuter notre émission et nous allons accueillir les coachs sous vos applaudissements. Reine de la pop en France, 17 ans de carrière, une coach historique retrouve son fauteuil. Nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer. Artiste talentueuse, 29 ans de carrière, une coach qui ne mâche pas ses mots. Nous avons le plaisir d'accueillir Zazie. Avant de débuter cette émission, nous vous proposons, la production vous propose de gagner une somme exceptionnelle. 10 francs, non pas pendant 1 ni 2 mais 3 mois, soit 25 francs au total. Oui, excusez-moi, la production vient de me signaler qu'il s'agissait bien entendu de 30 francs. Je rappelle que je ne suis pas prof de maths mais simplement animateur. Bref, pour jouer, rien de plus simple. Vous sortez votre Minitel, 3614, code La Voix, 1 franc par minute. Vous répondez aux 618 questions. Et Maître Radin, ici présent, se chargera de tirer au sort parmi les bonnes réponses l'heureux ou l'heureuse gagnante. Maintenant, si vous êtes prête, cher coach, je vous demande de bien vouloir vous retourner pour accueillir le candidat. Musique.
Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient appris par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. D'avoir dit aux hommes, pour chaque fille, une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Soudain, toute la ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits. Sans doute Dieu et sa barbe blonde, Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est.
Merci. Bravo. Eh bien, je me permets de commencer parce que j'ai quand même buzzé en premier. Donc, dis-moi, comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Luc.
Eh bien, Luc, je tiens à te dire que musicalement, c'était parfait.
Merci.
Et en plus, tu as choisi un thème qui me touche particulièrement. Donc, tu es le bienvenu dans mon équipe. Et surtout, il ne faut pas oublier que j'ai buzzé en premier.
Ok. Alors là, on arrête tout. Je suis bien d'accord qu'elle a buzzé en premier, mais j'ai buzzé aussi. Et alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup aimé comment tu as mis le rythme sur chaque parole. Et là, je trouve que c'est vraiment très important. Moi, j'en ai encore les frissons, quoi. C'était vraiment très, très beau. Ouais, okay, vraiment.
Merci.
Et puis, la voix. Vocal, voilà, enfin, c'était super beau.
Moi, ça tombe bien, c'est le nom de l'émission.
Tu es vraiment le bienvenu dans mon équipe, vraiment. On va faire un bon boulot ensemble, vraiment.
Bien, Luc, le plus difficile reste à faire. Il va falloir faire un choix. Zazie, Jennifer ou Zazie, as-tu ton idée ?
Aucune.
Alors, aucune idée. Je vais proposer au plus jeune public d'aider Luc. Êtes-vous d'accord ? Oui, super, il y a 4 candidats, d'accord ? Magnifique. Alors, attendez les consignes. Pour Zazie, et pour que Luc rejoigne Zazie, vous allez voter en levant le papier, le carton blanc. Maintenant, pour que Luc rejoigne l'équipe de Jennifer, le carton orange. Êtes-vous prêt à voter ?
Oui !
3, 2, 1, top ! Alors, il va falloir comptabiliser, Luc. Tu sais compter. Alors. Allez, tu comptes l'orange ? On n'influence pas le public, cher coach. Il semblerait que ce soit les oranges. Ah oui. L'équipe de Jennifer. Alors, tu peux rejoindre ta coach. Félicitations. Et je pense qu'on peut applaudir Luc et applaudir les musiciens. Luc, je te raccompagne. Attention au public, au jeune public.
Et quand même, moi, il a choisi un thème qui était tout à fait d'actualité. Moi, de suite, quand il a parlé de planète bleue, ça me fait penser à l'eau, au réchauffement climatique. En plus, avec la vague de chaleur qu'on a eue cet été, c'est pas forcément bon pour notre planète, tout ça.
Oh, moi je trouve que tu exagères, c'était vachement bien. On a eu la chaleur, on a eu les plages, le beau temps. C'était hyper agréable de bronzer, de profiter un max quand même. Oh.
Non, mais c'est pas positif tout ça. Planète bleue, 75% d'eau. Attends, aujourd'hui elle est polluée et il y a du plastique partout. Il y a même un 7e continent de plastique entre le Japon et les USA. Et c'est pas tout, parce que les poissons, ils mangent toutes ces particules de plastique et ça termine forcément dans nos assiettes, tout ça.
Moi, je trouve que tu exagères un petit peu avec ton 7e continent de plastique. Moi, les seuls plastiques que j'ai vus cet été, c'était les grosses bouées en forme de licorne sur l'océan. C'était hyper agréable. Les enfants et les adultes qui sautent, qui plongent, c'était trop bien. Franchement, t'exagères. Par contre, je voudrais revenir sur les paroles qu'il a dit dans la deuxième strophe. J'y avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage et ils avaient répété par cœur. Toujours, tous toujours dans la même ronde. Le partage, les gens de couleur, c'est comme dans les grandes villes en fait. Il y a des gens de nationalités différentes, il y a des gens de couleurs différentes et ça, je trouve ça chouette.
Là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais, forcément, je trouve qu'aujourd'hui, on a plutôt peur de l'autre et qu'on le rejette. Alors, je comprends pourquoi, dans ses paroles, il disait que Dieu s'est assis sur le rebord du monde et qu'il pleure quand il voit ce que les hommes en ont fait. Parce que c'est dur d'aimer les autres, surtout s'ils ne nous ressemblent pas. Et dans sa chanson, il a aussi dit quelque chose que j'aime bien. Il parle de toutes ces jolies choses. Tu sais, pour chaque fille, il y a des fleurs, des arbres à pommes. Elle est belle, la création de Dieu.
Des arbres à pommes. Alors, avec tous les arbres de pitié qu'on a sur cette terre, tu nous fais une fixette sur les pommiers.
Alors, je vais te prêter mon micro.
Merci.
C'est l'impro, hein?
C'est le direct.
Mais tu fais vraiment pas d'efforts aujourd'hui. La Bible, tu connais? Dans la Genèse, c'est au tout début de la Bible. Mm-hmm. Il y a un arbre au milieu du jardin. Et Dieu avait demandé aux hommes de ne pas en manger les fruits. Alors, c'est symbolique, mais les hommes ont désobéi et ont mangé du fruit défendu. Et on s'en souvient aujourd'hui quand on parle de croquer dans la pomme. Il a dit, tous y ont croqué de bon cœur. C'est ce que la Bible appelle le péché. Les hommes se sont rebellés contre Dieu et du coup, toute la création est abîmée.
Alors, je comprends beaucoup mieux pourquoi il dit dans la chanson que Dieu s'est assis sur le rebord du monde et qu'il s'est mis à pleurer.
Et oui, Dieu avait demandé aux hommes de s'aimer mutuellement et de respecter sa création. Mais franchement, tu trouves qu'on y arrive ? Il n'y a qu'à voir tous les conflits partout dans le monde et les problèmes écologiques qui se posent en ce moment.
Mais tu as l'air de bien t'y connaître. Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Mais toujours dans la Bible, il y a un passage où Dieu parle de respecter sa création.
Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture. Toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture.
Bon, en fait, la terre, justement, elle est comme nous. Elle a besoin de se reposer. Et actuellement, non seulement on ne la laisse pas se reposer, mais en plus on la pollue et on la dégrade. Alors que si on faisait tous un petit effort, elle pourrait se reposer. Par exemple, à la maison, on a remplacé les pousse-mousses par des pains de savon, ou on demande aux enfants d'éteindre la lumière quand on change de pièce, ou quand on se brosse les dents. On peut éteindre l'eau, et puis pareil quand on fait la vaisselle. Alors, je ne veux pas te donner de leçons ni te faire culpabiliser, juste faire réfléchir à notre impact écologique, parce qu'on est tous responsables. Et puis attends, il y en a qui font beaucoup plus que nous. Il y en a, ils roulent tout à vélo ou ils achètent tout en vrac. Du coup, zéro plastique.
Bon, c'est bien beau tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement aujourd'hui ?
Regarde, aujourd'hui, et sans aller très loin, on a notre repas après, où vous êtes tous invités. D'habitude, on mange dans des assiettes en plastique ou des verres en plastique. Là, si chacun amenait une assiette et un verre de chez lui, on polluerait beaucoup moins.
Pas mal ta proposition, mais je vois que tu as bien réfléchi à la question. C'est vrai que là, la chanson, avec les phrases qu'on a étudiées, ça prend vraiment une tournure particulière. Et puis quand il dit que Dieu s'est assis sur le rebord du monde et qu'il s'est mis à pleurer, en fait, il s'est mis à pleurer sur la méchanceté des gens, sur la cruauté des gens qui abîment sa création. Ça me fait penser à une émission radio que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps.
Le 29 juillet 2019, ils ont appelé ça le jour du dépassement de la Terre. Alors, le 29 juillet 2019, on aurait consommé tout ce que la Terre était capable de produire en une année. Ça veut dire qu'à partir du 30 juillet 2019, on consomme des choses que la Terre ne peut pas renouveler aussi rapidement qu'en une année. Alors, c'est comme notre salaire. Si à partir de fin juillet, on n'avait plus de salaire et qu'on avait tout dépensé, on allait à la banque et puis on allait se servir de nos économies. Alors, c'est sûr, cette banque écologique, c'est aussi la Terre. Et la Terre, une fois qu'elle n'aura plus rien à nous proposer, et alors là, on sera très mal.
Alors, cher coach, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin, mais on va finir par une note positive. J'aurai le plaisir et nous aurons le plaisir de vous retrouver le dimanche 3 novembre, ici même, sur le plateau de La Voix. Et avant de laisser la place à Alexis pour la deuxième partie, comme on dit chez nous en Grèce, Adi Chats.
J'ai une petite devinette pour vous, qui a dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Vous l'avez reconnu ? Il a été enterré la semaine dernière. Jacques Chirac. C'était en 2002, il y a 17 ans, au sommet de la Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je vais le citer intégralement, vous allez voir. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre, elle souffre de mal-développement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Devinette, qui a dit notre maison brûle et je veux que vous agissiez comme si notre maison était en feu parce qu'elle l'est. Je vais le redire en entier. J'ai coupé un petit bout, mais je vais vous le dire cette fois-ci. Notre maison brûle. Je veux que chaque jour vous ayez peur comme moi. Je veux que vous agissiez comme si nous étions en crise. Je veux que vous agissiez comme si votre maison était en feu parce qu'elle l'est. Alors, qui a dit ça? Pardon? Bravo, Greta Thunberg. Forum mondial économique de Davos, en janvier 2019, cette année. 17 ans d'écart entre Jacques Chirac et Greta Thunberg. Pour quel effet? Quel effet du discours de Jacques Chirac il y a 17 ans? L'urgence écologique et humaine, elle s'est même accentuée entre les deux discours. Devinette, qu'est-ce qui fait 22 km de long et 6 km de large? Une idée? Non, le septième continent est bien de plastique entre le Japon et les États-Unis est bien plus grand que cela. Fait plusieurs fois la France. Qu'est-ce qui fait, la semaine dernière, qu'est-ce qui a fait en France 22 km de long pour 6 km de large? La fumée, bravo! La fumée provoquée par l'incendie de l'usine Seveso Lubrizol. À Rouen, 22 km de panache de fumée pour 6 km de large. Et cette catastrophe écologique, la semaine dernière, elle nous a laissés tous dans le flou. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Même les spécialistes en chimie, en écologie, ne savent pas ce que ça va donner. On le sent tous que ça va être dramatique. La preuve, c'est que les enfants ont été confinés à la maison. Les personnes âgées dans les maisons de retraite ont été confinées dans leurs maisons de retraite. Les agriculteurs, les éleveurs ont été contraints de jeter leur lait. Les maraîchers, fruits et légumes, poubelles directement. On ne consomme plus l'eau du robinet à Rouen. C'est livraison de bouteilles d'eau pour tout le monde. Donc on en est là à Rouen. On en est là. Et en même temps, on ne sait pas ce que ça va donner. On a l'impression qu'on a bien évité le pire. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas d'effet évident pour le moment. Mais il faut bien reconnaître, on ne sait pas. On ne sait pas quels vont être les effets à long terme. Lubrizol, finalement, ce n'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, de ce que l'homme est capable d'abîmer l'environnement. Bible et écologie. Vous avez peut-être trouvé que l'association des deux mots était un peu bizarre, et je vous donne raison. Vous avez raison. C'est plutôt une association inhabituelle. On n'a pas l'habitude d'entendre parler de la Bible et de l'écologie en même temps. Pourquoi? Je vous donne trois raisons. La première, il faut bien l'admettre, la première c'est que dans l'histoire de l'humanité, les chrétiens n'ont pas été des champions de l'écologie. On a franchement été plutôt nuls en écologie jusqu'à présent, les chrétiens. Genèse chapitre 1, le tout premier livre de la Bible, le 28e verset de la Bible. Dieu a dit aux hommes, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez sur les poissons, les oiseaux, les insectes, tous les animaux. Et nous, les hommes, qu'est-ce qu'on a fait de ça? Eh bien, les hommes, les humains, comme on sait si bien le faire, on a déformé les paroles de Dieu, on s'est rendu maître de la terre au point de l'abîmer, on a dominé sur tous les animaux au point de quoi? Eh bien, aujourd'hui, il y a des espèces menacées, il y a même des animaux qui ont disparu. Le fameux dodo, dont vous avez peut-être entendu parler à l'île de la Réunion, ou Maurice, merci. Comme tous les hommes, eh bien, nous les chrétiens, on n'a pas été meilleurs. Et donc, voilà, Bible et écologie, ce n'est pas forcément naturel comme association. Alors ce matin, je vous propose qu'on aborde vraiment ce sujet avec humilité, en étant conscient que on n'est pas meilleur que les autres. On veut vraiment pas, on veut vraiment pas vous donner de leçons ce matin. C'est vraiment pas l'objet. La deuxième raison pour laquelle on associe peu souvent la Bible et l'écologie, c'est que les chrétiens parlent souvent de la fin des temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et quand les chrétiens parlent de la fin des temps, c'est souvent pour dire que de toute façon la terre est fichue et que ça va être la destruction totale. Mais est-ce vraiment le cas? On se reposera la question tout à l'heure. Est-ce que la fin des temps implique vraiment que la terre d'aujourd'hui soit fichue au point que tout doit disparaître? Et la troisième raison pour laquelle on n'associe pas facilement Bible et écologie, c'est que, est-ce que la Bible en parle de l'écologie? Est-ce qu'elle en parle? C'est vrai que si on attend un passage clé, si on attend une prédication de Jésus sur l'écologie ou une prédication de l'apôtre Paul sur l'écologie, il n'y en a pas, on n'en trouve pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la Bible n'en parle pas. Si on y prête attention, si vraiment on fouille et qu'on regarde de plus près la Bible, on va découvrir des passages qui nous seront utiles pour comprendre la responsabilité écologique qui est la nôtre. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin, on ne va pas tout balayer, on va juste en regarder quatre. On va se promener. Je vous propose de faire cette petite balade écologique ce matin dans la Bible. Des passages qui ne paient pas de mine à la première lecture, mais vous allez voir que si on les regarde d'un peu plus près, on peut être interpellé par rapport à notre façon de gérer notre planète. Et j'ai deux souhaits pour ce matin. Le premier, c'est que chacun de nous, et moi le premier, et ça a été le cas en travaillant ce message, j'ai été interpellé, j'ai été questionné dans mon rapport à la planète. Ça, c'est mon premier souhait, que nous puissions tous sortir avec un questionnement sur la planète. Et mon deuxième souhait, c'est qu'on puisse, on puisse découvrir Dieu différemment. Les 3D de ce culte, découvrir Dieu différemment. Et peut-être qu'en sortant, on puisse se dire, mais finalement, le Dieu de la Bible, il a quelque chose à nous dire pour notre écologie. Allez, c'est parti. Le premier texte qu'on regarde ensemble, deuxième chapitre de la Bible, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Cultiver et garder. Ce texte, il est important parce qu'il vient nous expliquer le premier texte que nous avons lu tout à l'heure. Genèse 1, je vous le rappelle, Genèse 1, rendez-vous maître de la terre, dominez sur les animaux. Eh bien, il vient nous expliquer ça. Qu'est-ce que ça veut dire se rendre maître de la terre? Est-ce que ça veut dire l'abîmer, la détruire? Non, ça veut dire la garder et la cultiver. Exactement comme un jardinier qui s'occupe du jardin qui lui est confié. Ou exactement comme un intendant s'occupe du patrimoine qui lui a été confié par son patron. C'est ça qui nous est demandé, en fait, en fin de compte. Gérer, pour ne pas abîmer. Contrôler le jardin avec sensibilité. Alors je me suis confronté avec ça et j'ai été interpellé moi-même. Et c'est là que le constat fait mal, un constat qui fait mal. Je me suis demandé, est-ce que je suis un bon jardinier? Est-ce que je suis un bon intendant? Allez pas voir derrière la maison, c'est horrible. En fait, j'ai surtout réfléchi à ma poubelle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle devient ma poubelle? Vous savez, la poubelle noire là qu'on ferme et qu'on met dans le bac et qu'on sort pour le camion poubelle, qu'est-ce qu'elle devient ma poubelle? Donc je me suis renseigné ici. Ma poubelle, il y a une partie des déchets qui va être enfouie à Précillon, près d'Oloron-Sainte-Marie, si vous connaissez. Site d'enfouissement de nos déchets. Ordures ménagères enfouies à Précillon. Et il y a une partie aussi qui est brûlée à l'usine d'incinération de l'Escar. Et donc je me suis dit, mais finalement, avec tout ce que je pollue les sols à Précillon et je pollue l'air qu'on respire ici à l'Escar, en partie, même si, bien sûr, tout est aménagé et contrôlé, mais néanmoins, on pollue en partie. Et à y réfléchir, est-ce qu'on a une solution ? Est-ce qu'on a une solution par rapport à ça ? J'ai peur qu'on n'en ait pas. Le mieux qu'on puisse faire ici, par rapport à ce constat qui fait mal, c'est de réduire notre consommation. Accepter d'arrêter de consommer, quoi. C'est tout. La consommation à outrance, c'est du plastique, c'est plein de trucs qu'on ne sait pas gérer, en final. Notre seul mode d'accès à l'amélioration, c'est manger avec des bocaux en verre, des boîtes en métal, des trucs qui se recyclent à l'infini, métal et verre. Et tout à l'heure, ça a été dit, acheter en vrac pour éviter notre consommation, éviter notre pollution de plastique. En tout cas, voilà, j'ai été interpellé par Dieu ici. Nous sommes des intendants, nous sommes des jardiniers de sa création. Il nous appelle à la valoriser et à ne pas la détruire. Deuxième texte qu'on va regarder ensemble, cette fois-ci c'est sur la nourriture, c'est sur ce qui termine dans notre assiette. Je me suis dit, c'est important pour nous les Français ce qui termine dans notre assiette, d'autant plus important qu'on va faire une bonne bouffe après le culte. On va regarder un peu donc la question de ce qui termine dans notre assiette. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Est-ce que vous saviez qu'il y avait ça dans la Bible ? Paye pas de mine, hein, ce verset. On peut le lire des dizaines de fois sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. Mais au final, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Dieu, ici ? Il est en train de dire, tu peux prendre les œufs, tu peux prendre les petits, mais tu vas laisser tranquille la mère. Tu vas la laisser partir. Pourquoi ? Pour qu'elle puisse pondre à nouveau et avoir une nouvelle nichée l'année prochaine. Ça, c'est un véritable principe pour un mode de vie durable, pour que notre création puisse continuer à durer. Et vous voyez ce qu'il dit Dieu ? Quel est l'intérêt pour nous ? Afin que tu sois heureux. Notre bonheur dépend de notre préservation de l'écologie. Afin que tu prolonges tes jours. Notre vie, notre survie dépend de la conservation des animaux, en tout cas. Et c'est vrai que si on avait vraiment pris au sérieux de considérer ce mode de vie durable, on n'aurait peut-être pas pillé les océans tels qu'on les a pillés aujourd'hui. J'ai fait le constat, en travaillant pareil ce message, j'ai fait le constat que, en creusant un peu, il y a plein d'espèces de poissons qui sont menacées aujourd'hui. La morue, le thon rouge, je ne sais pas, mais nous on mange souvent ce type de poisson, et ça m'a interpellé, savoir que ces espèces-là, aujourd'hui, sont menacées d'extinction. Et j'ai trouvé, un peu en fouillant, il y a pas mal de sites internet qui proposent des listes de poissons qu'on peut manger aujourd'hui et qui ne sont pas en voie d'extinction. Alors peut-être que moi j'ai été interpellé, j'ai pas encore eu le temps de faire ce travail pour moi à la maison, mais peut-être que je vais me mettre à acheter mon poisson en fonction de ce qu'il y a sur ces listes d'animaux qui ne sont pas en voie d'extinction aujourd'hui. Et pour ce qui est de ce qui pousse de notre sol, de la terre, de l'agriculture, on l'a déjà entendu tout à l'heure dans la première partie tout à l'heure. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ et tu tailleras ta vigne, tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Est-ce que vous connaissez Didier Guillaume ? Vous savez qui c'est ? Ministre de l'Agriculture. Il a l'air très connu. Didier Guillaume a dit récemment à la télé, nos sols en France sont dans un état catastrophique car la culture les a abîmés. Il a fait ce constat-là, le ministre de l'Agriculture actuel. Et il continuait, non pas que nos agriculteurs soient des pollueurs, non, ils ne sont pas plus pollueurs que nous, mais nos agriculteurs, ils sont sous quoi comme coup ? Sous le coup de la pression de la société de consommation, qui en demande toujours plus. On en demande toujours plus dans nos assiettes, et donc ils sont obligés de cultiver à fond, de plus en plus largement, de plus en plus intensément. Et donc on est tout autant responsable qu'eux de l'appauvrissement de nos sols aujourd'hui. Responsabilité collective. Alors, arrivé ici, on pourrait trouver que la balade est assez indigeste. En général, on parle de balade de digestion, mais alors là, franchement, c'est l'overdose, hein. On vient de parler que des problèmes dont on ne voit absolument pas comment on va arriver au bout de ces problèmes-là, ni quelles solutions on peut mettre en place pour les éradiquer. On n'en a pas. Pas complètement, en tout cas. Nos actions, elles ressemblent plus à des sortes de gouttes d'eau dans un océan. Mais je vous propose un nouveau texte. Et ce texte-là va nous donner de l'espoir. Alors j'ai choisi exprès un texte que j'espère que vous connaissez, ou une histoire dont vous avez peut-être, avec un peu de chance, entendu parler. C'est l'histoire de Noé. Vous avez entendu parler de l'histoire de Noé ? C'est une histoire d'arche dans laquelle les animaux rentrent avec une famille, la famille de Noé. Et il y a un déluge qui arrive et toute la terre est inondée et tout le monde meurt, sauf Noé et sa famille et les animaux qui sont rentrés dans l'arche. Et bien vous allez voir que ce passage-là, il est pertinent pour notre réflexion aujourd'hui parce que Noé et sa famille, ils ont survécu à quoi ? À un changement climatique. Et il se pourrait bien qu'on soit en plein changement climatique, nous aussi, en ce moment. Et on va voir comment l'espoir naît de ce texte pour nous, de ce récit. Vous allez voir. Un espoir à venir. Alors ça commence mal. Hein. Ça commence par les hommes et les femmes qui ne se comportent pas bien. Dieu qui est triste, Dieu qui est en colère et qui décide de tout éliminer, de tuer tout le monde, pour tout recommencer avec Noé. Il fait grâce à Noé, cet homme, et à sa famille. Alors il ne choisit pas n'importe qui. Le texte nous laisse penser que Noé est le meilleur homme du monde à ce moment-là, et donc il choisit cet homme pour le sauver. Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Je vais les détruire ainsi que la terre, mais toi, construis un grand bateau en bois résineux, l'arche. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire tout être animé de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle et une femelle de tous les animaux pour qu'ils restent en vie avec toi. » Et c'est ce qui se produit dans la suite du récit. Le déluge nous est présenté comme un jugement de Dieu qui s'abat sur la méchanceté des hommes. Mais en même temps, c'est l'histoire de la compassion. Dieu qui fait grâce à Noé et à sa famille et qui les épargne lors de ce déluge, ainsi qu'une paire de chaque animal. Mais là aussi, ce récit m'a interpellé. Pourquoi ? Parce que Noé était peut-être le meilleur homme de son temps, mais nous. Est-ce qu'il y a des candidats dans la salle au meilleur homme 2019, meilleure femme 2019 ? Et donc je me suis demandé, mais qu'est-ce qui va nous arriver ? Est-ce que ce qui va nous arriver, c'est pareil qu'à ces hommes du temps de Noé ? Est-ce que ce qui nous pend au nez, c'est le jugement de Dieu que mérite notre méchanceté ? La colère de Dieu. En fait, on pourrait croire que l'histoire de Noé, c'est une histoire, une belle histoire qui réussit. En fait, l'histoire de Noé, c'est un échec. C'est un véritable échec. Et je voudrais lire avec vous la raison pour laquelle c'est un échec. Alors d'après, on venait juste de faire le constat que Noé, sa famille et les animaux viennent d'être sauvés de la colère de Dieu, mais néanmoins, c'est un échec. Pourquoi ? À cause de ça. Voilà l'une des premières choses que Noé fait en sortant de l'arche. Il se mit à cultiver la terre, il planta une vigne, il en but le vin et s'enivra, de sorte qu'il se mit tout nu sous sa tente. Cham vit son père nu et sortit pour le raconter à ses frères. Je vous le dis en langage d'aujourd'hui, un peu cru, vous m'excuserez. L'une des premières choses qu'a fait Noé en sortant de l'arche, alors qu'il venait d'être épargné par Dieu de sa colère et de son jugement, il plante une vigne, il se prend une cuite. Il se fout à poil dans sa tente. Il y a un de ses fils qui passe par là, il le voit, il se fout de sa gueule, il va le raconter à ses frères. Vous trouvez que c'est une belle réussite, l'histoire de Noé, franchement ? C'est ça, l'histoire de Noé, aujourd'hui. Vous prenez le meilleur des hommes de l'époque, Noé. Vous enlevez tout le reste. Et malgré tout, le mal recommence exactement comme avant. Rien n'a changé. Pourquoi rien n'a changé ? Parce que la seule chose qui importait véritablement, Noé l'a transporté avec lui dans l'arche. Tout a été détruit, tout, oui, mais pas. Non, ce que Noé avait dans le fond du cœur, ça a été transporté dans l'arche. Et c'est là d'où vient le problème. Le problème, l'entièreté des problèmes qui se passent dans l'humanité viennent de notre fond du cœur à nous, qui est mauvais. Et c'est ça, c'est ce virus du mal que Noé a transporté dans l'arche pendant le déluge. Et ça, c'est l'un des thèmes, c'est le thème fondamental de toute la Bible. Les problèmes de l'humanité, dont les problèmes écologiques, viennent de ce mal qu'il y a au fond de notre cœur à chacun. Et la Bible est sévère par rapport à ce constat-là. Elle dit, nous méritons tous la colère de Dieu. On mérite tous d'être jugés. Jugés pour nos pensées mauvaises, nos actes mauvais, nos paroles mauvaises, et même nos silences. Alors que parfois, il faudrait l'ouvrir, franchement. Et par rapport à la création, il y a un verset dans l'Apocalypse qui fait froid dans le dos. Ce verset dit, Dieu dit, je vais détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Mais là, on l'a vu tout à l'heure, on est tous un peu responsables de la destruction de la terre. Donc on est mal, on est franchement mal. Alors ce Noé qui n'était pas parfait, pourquoi est-ce que Dieu l'a épargné au final s'il n'était pas parfait? Eh bien en fait, c'est un cadeau. Un cadeau complètement immérité. On appelle ça la grâce. Il a été sauvé par grâce. Il n'a pas été sauvé parce qu'il était meilleur que les autres, non. Et ce même cadeau non mérité, Dieu veut te l'offrir à toi aussi. Dieu veut t'épargner le jour du jugement. Il veut t'épargner toi, il veut m'épargner moi. Et il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour qu'on puisse être sauvés. Jésus, c'est le seul homme véritablement parfait que la terre ait jamais porté. Il est le Fils de Dieu. Et lui, ce Jésus, il a été puni à notre place sur la croix. Il a porté la totalité du poids des fautes de tous les humains, nous tous. Il a porté nos fautes à nous. Tout le mal qu'on dit, qu'on pense, qu'on fait, il l'a porté sur la croix pour qu'on puisse être pardonné par Dieu, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et Jésus, après sa mort, eh bien, il est revenu à la vie 3 jours plus tard, ressuscité d'entre les morts, dans un corps transformé, un corps parfait, mais pas un corps flambant neuf. La preuve, c'est que à ses amis, il leur a montré ses poignets et ses pieds et son côté. Il y avait encore la marque des clous et la marque de la lance sur son côté. Il avait un corps nouveau, un corps parfait, un corps transformé, mais pas flambant neuf. Un corps plutôt restauré. Et vous allez voir que ce corps restauré, ce corps renouvelé, c'est là tout notre espoir pour nous et pour la création également. Jésus, notre espoir est là. Et c'est aussi l'espoir de la création. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Par Jésus, Dieu a voulu réconcilier, non pas uniquement les êtres humains avec Dieu, non, non, il a voulu réconcilier l'univers entier avec lui-même. Et le texte continue, ce qui est sur la terre et ce qui est aussi dans le ciel. Tout l'univers entier réconcilié. La création entière réconciliée avec Dieu par Jésus. On se rend compte que Noé, il a échoué lamentablement à faire démarrer une humanité nouvelle. Le mal a repris exactement de plus belle après lui. Par contre, avec Jésus, c'est différent. Ce que Noé a échoué à faire, Jésus, lui, l'a fait. Et Jésus, ce qu'il fait maintenant, c'est à ceux qui se confient en lui, à ceux qui se détournent de leur mauvaise voie, eh bien, Jésus offre ce cadeau immérité. Il offre une nouvelle vie transformée dès maintenant. Il offre une nouvelle vie qui a un sens, qui a un but. Veiller sur la création de Dieu. Veiller et restaurer les relations humaines, les relations brisées. Restaurer les relations brisées entre Dieu et les hommes. Restaurer les relations brisées aussi entre les humains. Et finalement, une vie nouvelle transformée dans notre rapport avec Dieu, dans notre rapport les uns avec les autres et dans notre rapport aussi avec la nature, avec la création. Et pour la fin des temps, eh bien pour la fin des temps, des promesses exceptionnelles. Pour la fin des temps, des nouveaux corps, renouvelés, exactement comme celui de Jésus. Des nouveaux corps renouvelés dans une création qui le sera également. Une création qui sera restaurée, qui sera renouvelée, qui sera purifiée, comme à l'époque de Noé. Et en attendant ce jour, à quoi est-on invité? Eh bien, on est invité à changer de mode de vie. Prendre soin au mieux des humains et prendre soin au mieux de la création que Dieu nous a confiée. Nous sommes invités à nous réjouir. Réjouir parce que Dieu nous fait grâce, exactement comme il a fait grâce à Noé. Nous ne le méritons pas, mais Dieu nous fait un cadeau. Quel bel espoir pour nous, et quel bel espoir aussi de restauration pour la création à l'avenir.